La France a bien du mal à trouver une solution à ce problème.
À partir de vendredi prochain, les choses vont sûrement changer.
Attendez une minute là.
Bonjour à vous, un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles, tous les premiers mercredis de chaque mois de 18h10 à 18h40 sur 3DFM. Un autre monde possible, c'est possible.
-0 4 5 28 90 71 71 71 71 -2% 13 45 -0 4 Deutsche Bank 22.
Radio 3DFM, rediffusion.
Bonjour aux auditeurs de 3DFM, un autre monde possible, l'émission mensuelle d'Attaque Pays d'Arles qui ce mois-ci sera sur le thème de la biodiversité. Nous avons invité pour cela Arnaud Bécher qui est membre de l'association NACICA, Nature Citoyenneté en Croc, Camargue et Alpilles, et qui vient nous parler des processus en cours de financiarisation de la nature. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Est-ce que, en quelques mots, tu peux déjà nous dire ce que c'est que la diversité, la biodiversité, pardon?
Alors la biodiversité, c'est un concept assez récent qui a été donc un néologisme qui date des années 80, 1980, et qui est utilisé pour mettre l'accent sur la perte de diversité du vivant. Alors par biodiversité, diversité du vivant, on entend cela à tous les niveaux d'organisation, c'est-à-dire la diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et des gènes. Ce qu'on peut dire, c'est que la biodiversité, c'est un concept qui est apparu quand l'humanité a commencé à se soucier du déclin de la diversité du vivant. La biodiversité, c'est la diversité du vivant en crise, en quelque sorte.
D'accord. Donc, en l'occurrence, là, en novembre 2010, il y a eu une conférence sur la biodiversité, précisément, qui s'est tenue à Nagoya, au Japon. Et est-ce que tu peux nous dire quel en était l'objectif ?
Donc Nagoya, c'était une conférence qui s'est tenue dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, une convention internationale signée en 1992 à Rio de Janeiro par plus de 192 pays. Et cette conférence qui s'est tenue à Nagoya prévoyait donc d'établir un nouvel agenda de protection de la biodiversité pour les 10 années à venir. On retiendra donc plusieurs conclusions majeures de cette conférence. La première, c'est la mise en place du protocole de Nagoya qui va permettre d'établir les règles pour un accès aux ressources génétiques issues de la biodiversité et un partage plus équitable des avantages issus de leur utilisation, donc en particulier pour lutter contre la biopiraterie. Il y a aussi un plan stratégique donc qui va être mis en place pour dans chacun des pays signataires pour réduire le déclin de la biodiversité, à la fois donc en réduisant par exemple les subventions dommageables à la biodiversité ou en créant un réseau d'espaces protégés qui couvrirait au moins 17% de la surface des écosystèmes terrestres et 10% de la surface des écosystèmes océaniques. Finalement, a été mis en place lors de cette conférence une plateforme intergouvernementale pour la biodiversité, l'équivalent du GIEC pour le climat, qui va permettre que les politiciens la puissance publique soient informés par les scientifiques des moyens de réduire la perte de biodiversité.
C'est intéressant, ces objectifs de réduction de perte de biodiversité au niveau mondial, mais en quoi est-ce qu'ils nous concernent localement, enfin plus précisément en région PACA ?
Alors ces objectifs nous engagent la France et engagent les régions et plus jusqu'aux communes. L'agenda 21 par exemple, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un processus qui découle de cette convention internationale sur la diversité biologique. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on continue de perdre de la biodiversité. On perd l'équivalent de la surface d'un département français tous les 10 ans d'espace naturel qui est grignoté par l'urbanisation et les développements industriels. En région PACA, 40% du littoral est artificialisé. De nombreuses espèces restent menacées et la pression s'accentue avec l'afflux croissant d'une population vieillissante sur les rives de la Méditerranée. Bon, par ailleurs, on sait, vous savez tous qu'aujourd'hui, à l'est de la Camargue, on a des développements industriels très lourds qui sont déjà actifs et d'autres qui sont projetés. Il y a eu un incinérateur qui a été construit récemment, alors qu'on est dans une des zones les plus polluées de France. Et par ailleurs, le grand port de Marseille souhaite étendre et agrandir la zone portuaire en détruisant l'étang du Caban, un écrin de nature aux portes de la Camargue. Et cela se fera avec d'autant plus de camions et de transports polluants dans la région. Les enjeux de protection de la biodiversité, donc on voit qu'ils rejoignent aussi les enjeux de santé publique et de justice sociale.
On a beaucoup parlé en France du Grenelle de l'environnement. Est-ce que tu penses que la façon dont le gouvernement prend la mesure... qu'est-ce que tu penses plutôt de la façon dont le gouvernement prend la mesure des enjeux de réduction du déclin de la biodiversité ?
Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que la tendance lourde, c'est à laisser de côté les méthodes traditionnelles de protection et de réglementation pour aller vers des processus dits d'incitation et de contractualisation. Ces processus sont issus à la fois d'un manque de ressources données aux services de l'État pour assurer la protection et d'assurer la validité des systèmes réglementaires qui protègent la biodiversité, et aussi d'une idéologie qui pense que les processus incitatifs sont plus efficaces que les processus réglementaires et qu'il est plus efficace d'inciter que de contraindre. Donc, des exemples de telles incitations sont par exemple les mesures agri-environnementales dont on parle beaucoup pour l'agriculture. Ce sont des compensations qu'on donne aux agriculteurs pour les coûts qu'ils auraient à produire d'une façon respectueuse de l'environnement. Mais il existe aussi des contrats privés à privés, par exemple la compagnie Perrier qui paye des agriculteurs pour qu'ils produisent bio afin qu'ils préservent la source Perrier et que l'eau soit de bonne qualité. Donc on désigne plus généralement maintenant ces mécanismes par l'appellation de paiement pour services écosystémiques, et ils sont en train de se généraliser.
Mais en amont de cela, il existe tout de même un arsenal réglementaire qui devrait permettre normalement d'éviter ou au moins de ralentir le grignotage de ces espaces naturels. Enfin, par exemple, je pense à la loi sur la protection de la nature de 1976.
Oui, bien sûr, vous avez raison, ces lois existent. Malheureusement, elles sont souvent assez mal appliquées, et en particulier la loi de 1976 offre aujourd'hui un tremplin pour la mise en place de ces systèmes incitatifs et même de marché de la biodiversité, de véritables de marché de la biodiversité. En effet, cette loi de 1976, que dit-elle ? Elle impose aux maîtres d'ouvrage, donc aux développeurs, d'abord d'éviter que leur projet ait un impact négatif sur l'environnement, puis de réduire les impacts qu'ils n'auraient pas pu éviter, et enfin de compenser les impacts dits résiduels. Dans les faits, pourtant, force est de constater que cette partie compensation est très rarement mise en œuvre. Et c'est pour ça que s'est créé récemment donc un nouveau système pour essayer de mieux gérer la compensation par l'intermédiaire de l'ouverture d'une nouvelle banque, une banque d'un nouveau genre, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC Biodiversité, qui vise à justement mettre en œuvre la compensation pour les industriels.
D'accord.
Tu sais l'ami, c'est pas facile d'expliquer pourquoi on se bat. Ma campagne est loin de la ville, c'est dommage on ne se connaît pas. Pourtant chacun à notre façon, on se pose les mêmes questions. C'est le même vent qui nous malmène, deux maillons sur la même chaîne. Toi tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne pour l'agriculture paysanne. Tu sais chez toi c'est comme ici,
c'est pas les gens qui font les lois, c'est la finance et l'industrie. Sans s'occuper du résultat, nous on laissera pas s'envoler pour des bénéfices à court terme. Tous nos savoirs accumulés, nos bonheurs de vivre à la ferme. Toi tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On veut rester à la campagne, vive l'agriculture paysanne. Quand il y a surproduction, on nous répète jusqu'au délire, il y a encore trop d'exploitation, qu'à tout prix on doit s'agrandir. Nous on n'est pas des mercenaires, prêts à tout produire pour pas cher. On préfère avoir des voisins que des gros troupeaux, des gros engins. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On voudrait vivre à la campagne, de l'agriculture paysanne. La société qu'on nous prépare, au nord, au sud et au milieu, c'est du plastique et du cafard, et tout un tas de choses bien dégueu. Alors pense à moi si tu enrages de ce monde en déséquilibre. La bonne bouffe, les beaux paysages, c'est fait par des paysans libres. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne, vive l'agriculture paysanne.
Arnaud, on revient à cette nouvelle banque, la CDC Biodiversité, que tu évoquais dans la première partie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette banque et comment est-ce qu'elle fonctionne ?
Donc, la CDC Biodiversité, c'est ce qu'on appelle une banque de compensation. C'est un concept qui existe de longue date aux États-Unis, en fait, et qui va fonctionner de deux façons. Donc, par l'offre, la CDC Biodiversité va acheter des terrains qu'elle va restaurer, et elle va ainsi se constituer une réserve d'actifs de nature qu'elle offre de vendre à des industriels qui cherchent à compenser ce qu'ils ont détruit. Elle peut aussi répondre à la demande d'industriels qui auraient une dette écologique pour des espaces naturels qu'ils auraient détruits et qui pourront ainsi se rembourser ou rembourser cette dette en créditant un compte CDC Biodiversité.
Concrètement, alors ça marche comment ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple local ou régional ?
Alors, c'est vrai que l'exemple le plus... Le meilleur exemple, c'est celui qui est près de chez nous, et puis c'est là qu'expérimente pour la première fois la CDC Biodiversité. C'est le projet Koussou de Caussure. Donc le Koussou, c'est une formation steppique typique de la plaine de Croc, donc qui abrite des espèces uniques en France. Le Koussou, c'est un petit désert dans le sud de la France, entre Marseille et la Camargue, dont 75% de la surface a été détruite. Il en reste aujourd'hui moins de 10 000 hectares. On peut y voir beaucoup d'oiseaux très uniques à cette région-là de la France, le gangakata, l'outarde canepetière, le fourron cresserellette ou le dignème criard. Et puis, il y a des insectes endémiques comme le criquet et le bupreste de Croc. Sur ce petit territoire de la Croc, en 2008, la CDC Biodiversité a acquis 360 hectares de vergers à M. Comte, propriétaire de la société Caussure, en liquidation judiciaire. La CDC Biodiversité a acheté ces terrains-là 7 millions d'euros et elle va les restaurer. Donc à partir de ces vergers intensifs, elle va refaire du pâturage à ovin, donc un habitat typique de la plaine de Croc.
Donc si j'ai bien compris, ils achètent ces terrains, mais qu'est-ce qu'ils en font ? Comment est-ce qu'ils peuvent justifier du bénéfice pour la biodiversité ?
Donc la CDC Biodiversité, elle va restaurer ce site, donc en mettant en œuvre divers procédés d'ingénierie écologique. Elle va encourager sa renaturalisation et elle va revendre ce qu'elle appelle de la nature. Elle dit aujourd'hui que le site sera intégré à la réserve nationale de Crau, mais on n'a aucune garantie pour ça. La CDC Biodiversité, c'est une banque qui a de droit privé, donc qui vise à faire des bénéfices. Et rien dans ses statuts ne la contraint à la conservation à long terme des terrains acquis. C'est pas comme le Conservatoire du Littoral, une agence de l'État. Donc on ne sait pas ce qui se passera après 30 ans. Aujourd'hui, ces actifs sont estimés à 35 000 euros l'hectare et ils cherchent toujours acheteurs.
Oui, ben en effet, oui. Mais à quoi correspondent alors ces 35 000 euros l'hectare ?
Donc les responsables de la CDC Biodiversité disent que c'est le coût de l'achat plus de la restauration du site. Et bien sûr, ils s'en défendent, mais selon moi, c'est une mise à prix de la nature. Le problème, c'est que d'autres banques sont sur les rails et déjà se positionnent sur ce marché qui risque d'être juteux. On a par exemple le FIPAN, le fonds d'investissement pour le patrimoine naturel, qui se met déjà donc en compétition, en concurrence avec la CDC Biodiversité. Et donc on peut s'attendre à ce que dans ce jeu de concurrence rapide de ces banques de compensation de la biodiversité, la valeur des coûts étant toujours évaluée à partir des coûts de la restauration, on va aller vers le moins 10 ans et des actifs moins chers, encourageant donc une restauration au rabais.
Donc si je comprends bien, on pourrait voir là les prémices d'un marché du droit à détruire, un peu comme quand on a institué le marché carbone, on a institué un marché de droit à polluer.
Effectivement, aux États-Unis, les actifs de nature sont très très standardisés et sont échangeables facilement d'une banque à l'autre et sur des marchés qui ont été conçus spécialement pour cela. On avait 391 banques de compensation en 2005 aux États-Unis, donc plus de la moitié étaient des banques commerciales. Et il y a eu plusieurs évaluations qui ont montré et fait la démonstration que plusieurs de ces actifs détenus par ces banques étaient pourris. Engagement de compensation sans suite, échec de la restauration d'habitat, ce qui fait qu'aujourd'hui de nouvelles règles encadrent l'activité de ces banques. Mais comme le montre, comme ça a déjà été montré pour les bourses d'émissions de CO2, des bulles spéculatives peuvent se former sur ce type de marché et on va avoir des très fortes variations des prix de l'hectare de biodiversité avec éventuellement, comme pour le CO2, des chutes des cours qui rendaient à l'époque presque gratuit le droit d'émission de gaz à effet de serre. Donc le principal intérêt de ces mécanismes, c'est de permettre de poursuivre le business as usual, sans remettre en cause les logiques de croissance économique.
Et cette tendance donc à la marchandisation de la nature, est-ce qu'elle dépasse l'Hexagone ou c'est juste une tendance franco-française ?
Alors c'est une tendance lourde qui est en train de se mettre en place à l'international, à travers le processus de développement de ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est-à-dire, on est passé de la nature et de sa protection à la conservation et la gestion de la biodiversité. Et maintenant, on cherche à gérer des services écosystémiques, c'est-à-dire que toute la nature est réduite aux services qu'elle peut rendre à l'humanité. Et on ne préserve plus aujourd'hui des forêts, mais des puits de carbone. On ne préserve plus des zones humides, mais des zones d'expansion de crues et des systèmes naturels d'épuration de l'eau. Donc ce réductionnisme-là, ça permet d'échanger plus facilement des choses sur des marchés. Les économistes en sont très friands, car ça permet de donner un prix à tout. Et des fonds d'investissement se positionnent déjà sur ce marché. Ainsi, il y a l'exemple de Canopy Capital, qui est un fonds d'investissement qui vous permet d'acheter des actifs de forêts pluvieuses équatoriales et d'acheter les bénéfices, d'investir sur la production de pluie.
Charmant programme.
L'alternative, c'est pas malin, c'est la nuit noire ou le matin. Du vent ou le fracas, des rues, des villes s'abrutissent, c'est de l'air pur à satiété, bout des poumons archi troués. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment y changer quelque chose ou laisser durer? L'alternative, c'est pas malin, c'est dire oui à un désir, ou d'un seul coup se voir vieillir, c'est piétiner sa propre image, celle dont les autres vous encagent, ou faire continuer le mirage. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées, comment s'orienter. L'alternative, c'est pas malin, c'est s'emmerder à s'en soudre l'heure dans des boulots déshonorants, ou se réveiller un beau matin, casser des moulins avec des forces insoupçonnées. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment y changer quelque chose ou laisser durer? C'est pas malin, c'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien, ou continuer bon en mal an, jusqu'à la fin en cahotant, à chercher un peu le panard. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment y changer? Qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter.
Alors Hervé, ben merci de m'avoir invité dans les studios 3DFM. D'après le programme, là, tu vas nous donner l'agenda d'attaque pour le mois de mars. J'espère qu'il va y avoir des nouveautés un peu, parce que ça doit être un peu toujours pareil, non?
Il est assez touffu. Bon, on a évidemment nos traditionnels, nos standards, on va dire, mensuels, hein, donc avec la présence sur le marché paysan un samedi sur deux. Donc au mois de mars, ça tombe les samedis 5 et 19 mars.
Vous cherchez donc des volontaires toujours, non?
On cherche toujours des volontaires, mais on a toujours, par contre, beaucoup de monde qui vient discuter, nous faire la bise, crier, approuver. Donc c'est de 10h à midi les samedis 5 et 19 mars, donc sur le marché paysan d'Arles. Nous avons également autre standard mensuel, donc le deuxième lundi de chaque mois à la Maison de la Vie Associative, 3 boulevard des Lys à Arles, de 20h à 22h, l'assemblée mensuelle de l'association. Elle est ouverte à tous, qu'on soit adhérent ou pas. Toutes nos manifestations sont publiques et gratuites. Donc le lundi 14 mars, de 20h à 22h, à la Maison de la Vie Associative.
Et puis là, alors, plutôt pour les ampoules?
Pour les ampoules, alors, c'est nos alter-randonnées qui recommencent une alter-randonnée de pré-printemps. Donc, c'est des randonnées qui sont accessibles à tout le monde, qui sont également gratuites. Donc là, il y en a une ce dimanche 6 mars autour de Rochefort-du-Gard. Donc, on se donne rendez-vous dimanche 6 mars, place Lamartine, à 10h pour des départs en covoiturage, ou alors directement à Rochefort-du-Gard, donc sur le parking de la Poste, à 11h. Et nous sommes assez précis, c'est-à-dire que nous partons à l'heure, donc apportez vos pique-niques, vos jumelles, vos appareils photo, apportez à manger, un coup à boire, c'est en général très très sympa, et encore une fois, c'est ouvert à tous. Et puis là, on rentre dans le dur. Donc c'est la cinquième projection de Water Makes Money, le film sur la façon dont les multinationales font de l'or avec l'eau. Donc là, ce coup-ci, c'est une projection qui a lieu le 15 mars à Miramas, au cinéma Le Comédia à 20h30, et un débat autour de la gestion de l'eau à Miramas et dans sa communauté d'agglomération sera animé par Attaque Pays d'Arles.
Alors après le forum social de Dakar, peut-être que vous allez nous parler un peu de l'Afrique.
Voilà, tu es bien renseigné Arnaud, hein. Donc il y a effectivement un groupe Afrique au pluriel au sein d'Attaque Pays d'Arles qui travaille depuis quelques mois sur ce sujet, donc qui va présenter un après-midi autour de l'Afrique, donc le samedi 19 mars à 15h à l'amphithéâtre Van Gogh, à l'espace Van Gogh. Donc il y aura des projections, des discussions sur des thèmes comme l'accaparement des terres, sur l'extraction des ressources, sur les migrations, sur les femmes, sur la santé. C'est fait en collaboration avec les associations, avec le CADTM, le comité d'annulation la dette du tiers-monde, également avec Nafadji Pays d'Arles, et puis avec l'association Arles Sanier. Et puis, pour terminer ce mois de mars bien chargé, donc une grande réunion publique le 29 mars à 18h15 à la Maison de la Vie Associative. Donc ce sera autour du thème de la restauration collective, des cantines scolaires et de la malbouffe. Donc c'est organisé en commun avec la Fédération des parents d'élèves, la FCPE, avec le syndicat enseignant, la FSU, et puis avec divers parents d'élèves et citoyens de la ville d'Arles et du pays d'Arles qui ont des choses à dire là-dessus. Donc une grande réunion sur la restauration collective le 29 mars à 18h15, donc à la Maison de la Vie Associative d'Arles. Eh ben, on arrive à la fin de cette émission Un autre monde possible, l'émission mensuelle d'Attaque Pays d'Arles. Donc elle sera rediffusée comme tous les mois. Donc le troisième vendredi, ça tombera donc le vendredi 18 mars de 11h à 11h30. Le prochain rendez-vous d'avril, ce sera le mercredi 6 avril à 18h05, où nous ferons une émission spéciale sur la malbouffe, toujours sur la restauration collective et sur les cantines scolaires à Arles. Et puis, avant de nous quitter, je vais d'abord remercier Arnaud de l'association Nasica qui est venu nous parler de la biodiversité et bien sûr lui laisser le mot de la fin.
Oui, alors pour un mot de la fin, je veux juste dire en deux mots que ce qui se passe aujourd'hui avec l'extension de la sphère financière aux dernières oasis de gratuité, de bien public, qu'est la nature et la biodiversité, on a un enjeu qui dépasse beaucoup la protection la biodiversité et qui aura des conséquences négatives non seulement pour la nature mais sûrement pour nous en termes de justice sociale ou en termes de santé publique plus largement.
Merci Arnaud et de toute façon à très bientôt sur le front.
C'était Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles. On se retrouve le mois prochain, le premier mercredi du mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. À bientôt.
Bon, voilà. C'est bon.
Bon, c'est bon quand même.